I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, votre podcast spécialisé sur l'actualité de la Formule 1 sort de sa période d'hibernation pour revenir sur la nomination il y a 48 heures, mardi dernier, de Fred Vasseur en lieu et place de Mattia Binotto. On en avait parlé, Stéphane, en toute fin de saison, que c'était probablement la piste la plus sensée pour Ferrari. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. 15 ans après Jean Todt, de nouveau, un Français à la tête de la Scuderia Ferrari.
Oui, on verra bien ce qu'il donne. J'ai l'impression qu'il arrive un petit peu dans la même ambiance de méfiance parce qu'on bouge un petit peu les lignes. Les Italiens étaient au management ces dernières années. C'est un Français qui arrive, c'est quelqu'un de l'extérieur. Donc, il va falloir qu'il se fasse adopter. Tout simplement, chez Maranello, ça va être son premier défi.
Et ça, effectivement, ça ne sera pas simple. Alors d'abord, avant de parler typiquement, vraiment spécifiquement de Fred Vasseur, on va quand même dire quelques mots de l'homme qu'il remplace, Mattia Binotto, qui a fait quasiment toute sa carrière chez Ferrari, qui était à la base un technicien et qui était donc arrivé jusqu'à la tête de l'équipe. Ce profil de technicien, alors Fred Vasseur aussi, hein, il a des diplômes d'ingénieur, mais c'était vraiment un technicien pur jus, Mattia Binotto. Et tu me disais là, quand on préparait cette intervention, c'est quand même une grosse perte le départ de Mattia Binotto pour la Scuderia.
Absolument, il ne faut pas se dire, bah tiens, on est bien débarrassé, Mattia Binotto est parti. Quand on se posait la question ces derniers mois, je disais attention, parce que c'est un technicien, il fait tout, et il faut le remplacer par quelqu'un qui a la même envergure, ou les mêmes compétences, ou qui va comprendre les mêmes choses. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que Mattia Binotto, il cumulait les postes de, on va dire, directeur technique occulte et directeur de l'équipe. Il voulait tout faire, c'est peut-être ça aussi qu'il a un petit peu perdu. Il voulait être au four et au moulin. Et là, il s'est perdu un petit peu dans ce magma, stratégie, etc. On y reviendra. Mais si tu remarques bien, Gilles, dans l'organigramme de la Scuderia Ferrari, il n'y avait pas le poste de directeur technique. Il y a toujours le poste de directeur technique châssis, occupé par Enrico Cardile. Le directeur technique moteur, hein. C'est Enrico Gualtieri. Et donc, c'est lui, en quelque sorte, qui était au-dessus de tout ça. Il avait, en quelque sorte, un rôle un petit peu comme Adrian Newey chez Red Bull, c'est-à-dire le chef du bureau technique, celui qui avait la haute vision de tout ce qui se passait, châssis et moteur. Et je dirais qu'il faut être conscient de cette perte-là, parce que Mattia Binotto, il a commencé dans l'équipe de test en 95, il est passé à peu près par tous les postes, il est devenu motoriste, c'est lui qui a abordé ce virage réussi de l'hybridation en 2014 avec le moteur hybride turbo. Donc ça, c'était très important et c'était réussi. Et puis il a conçu en tant que directeur technique la voiture de cette année. Je dirais par là que c'est lui qui donnait les grandes lignes, parce qu'il y avait un grand virage. Et si ce grand virage technique a été réussi en 2022, c'est vraiment grâce à Mattia Binotto. Faut pas l'oublier, ça. Et donc, on dit Fred Vasseur le remplace très bien, mais pour moi, on va voir vraiment comment vit un petit peu la Scuderia Ferrari sans Mattia Binotto.
Bah justement, on va en parler, parce que c'est peut-être précisément cette organisation un petit peu complexe à laquelle va se frotter là, maintenant, dans les prochains jours, les prochaines semaines, Fred Vasseur, qui éventuellement poser problème, parce que je pense que techniquement, Mattia Binotto était très très compétent. Les seules limites qu'on a pu voir de Mattia Binotto, c'était quand il y avait un couac dans l'équipe, dans sa façon de communiquer, où on sentait bien qu'il n'était pas à son aise. De ce point de vue-là, la Scuderia va avoir un expert en termes de communication, Fred Vasseur, qui est quelqu'un d'affable, de bonhomme, de souriant. Mais attention, vous y trompez pas, quand il a pas envie de vous dire quelque chose, c'est un très très fin communicant. Il ne vous dira pas ce qui ne l'arrange pas. Et ça va être très très précieux, cette qualité du côté de la Scuderia Ferrari. Mais là, il va y avoir un temps déjà où Fred Vasseur va devoir essayer de comprendre comment est organisée cette Scuderia, parce que clairement il y a un fonctionnement qui est propre à chaque équipe, mais à la Scuderia c'est quand même très très particulier. Faire un petit peu le tour de qui fait quoi, comment, et ensuite voir comment lui il peut essayer d'améliorer le fonctionnement, et à la fin faire de Ferrari de nouveau une équipe championne du monde des pilotes et des constructeurs.
Alors Gilles, il y a quelque chose un petit peu bizarre, d'inattendu dans la nomination même, l'appellation du poste de Fred Vasseur. Il a été nommé Team Principal, c'est-à-dire que c'est une appellation en fait qui correspond à directeur d'équipe, et ça c'est imposé par la FIA sur les circuits et même en dehors, lors des réunions en fait des chefs d'équipe, des patrons, quand elle appelle tous les team principals, ce sont ces gens-là qui doivent y aller et pas des représentants annexes. Bon, et il a été nommé aussi manager général, ce qu'on n'avait jamais vu. Alors ça, c'est une appellation qui fait un petit peu américaine, je dirais, c'est peut-être la touche John Elkann.
Ouais.
Et le souci, c'est que John Elkann n'était pas très chaud, il n'avait pas pensé à Fred Vasseur. Dans un premier temps, en tous les cas, il cherchait ce profil-là, mais on ne sait pas vers qui s'orientait, mais ça ne s'est pas fait naturellement. Et dans les déclarations, tu noteras quand même que c'est Benedetto Vigna, le directeur général de Ferrari, qui a pris position en disant bah, c'était l'homme de la situation, Fred Vasseur, partout où il a passé, en fait, il a tiré le meilleur de ses équipes, de ses pilotes, de ses techniciens, des budgets qu'il avait en place. Ça veut dire que Benedetto Vigna, en fait, c'est le véritable soutien de Fred Vasseur, et c'est quelqu'un d'ailleurs qui était assez discret dans les affaires de la Scuderia jusqu'à présent, et là qui a pris parti. Donc c'est un point d'appui très très fort. Alors maintenant, Fred Vasseur, qu'est-ce qu'il va faire? On dit il remplace Mattia Binotto. On va voir pendant un an comment les choses vont se mettre en place. Là, il a un an de tranquillité parce que la voiture de 2023,
oui,
elle est faite par les équipes de Mattia Binotto. Et par rapport à ce qu'on disait sur Mattia Binotto...
Un an de tranquillité, je suis quand même pas sûr.
On va voir au fil de la saison, déjà au rythme de développement, oui, comment ça se passe, parce qu'ils ont un petit peu coincé l'année dernière. Mais on va surtout voir si Enrico Cardile a vraiment l'envergure d'un directeur technique, on dirait global, et s'il n'est pas juste un chef designer, qui est le numéro 2 en fait, de la technique. Et puis, côté moteur, par contre, Fred Vasseur, là, il est sûr de son fait, parce qu'il y a Günther Steiner qui a dit « J'ai croisé dans le paddock à Abu Dhabi, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Mattia Binotto, qui m'a dit « Le moteur Ferrari de l'an prochain est une bombe ». Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et on est revenu là-dessus régulièrement, oui, en disant qu'ils ont changé les moteurs.
Il lui loue à Günther Steiner le moteur Ferrari. Il ne va pas lui dire « Écoute, c'est un poumon ».
Mais il lui a dit ça parce qu'on est revenu sur tous ces changements de pièces, de pénalités. Et en fait, Mattia Binotto aussi, il avait un petit travers, c'est que il est un petit peu omnubilé par la puissance du moteur, et il en a peut-être fait un petit peu trop cette année à coup de pénalité. Ils ont changé le moteur entier de Sainz pour l'avant-dernier Grand Prix, ce qui était délirant. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Et ça vient peut-être du fait que Mercedes a construit sa domination de 2014 jusqu'à 2020 inclus, et même 2021, sur une puissance moteur. Et là-dessus, au moins, Fred Vasseur, il a quelque chose en place qui tient la route, mais il va falloir voir, je dirais, dans un an exactement ce que ça donne la gouvernance Vasseur.
Bah alors, je crois que là, ce qu'il va attendre maintenant, Fred Vasseur, c'est de voir déjà qui il a autour de lui, parce que Mattia Binotto est parti, mais on pense évidemment à un autre Français qui est, en gros, le numéro 2 de la Scuderia, Laurent Méquies, qui est officiellement, oui, team manager de cette équipe, qui était très
directeur
proche.
Sportif.
Oui,
directeur sportif.
Pardon.
Et il est chef des opérations, en fait, techniques sur place, sur les Grands Prix. C'est-à-dire que c'est un peu le super ingénieur, et puis le super stratégiste, on va dire.
Et c'est là qu'il va y avoir peut-être déjà quelques échanges, parce que Laurent Mekies était très très proche de Mattia Binotto. Comment est-ce que ça va se passer entre les deux hommes? Est-ce qu'il va rester en place? Est-ce que Fred Vasseur va venir avec, ou en tout cas va faire venir éventuellement, ou promouvoir en interne d'autres personnes? Là, va y avoir vraiment déjà toute une période où il va falloir essayer de comprendre comment ça fonctionne, qui fait quoi, avec quelles compétences aussi, selon les possibilités. Et puis, on se posait la question, Stéphane, que doit faire finalement Fred Vasseur que Mattia Binotto n'est pas parvenu à faire? Bah, c'est simplement, en tout cas simplement, non, c'est surtout assurer en cours de saison l'évolution de la Ferrari, ce que Mattia Binotto avait absolument pas réussi à faire durant la saison 2022. Ferrari avait commencé avec la meilleure voiture et finalement s'est fait déborder par Red Bull. C'est vraiment ça. Lui, Fred Vasseur, n'a pas eu la main sur la voiture qu'il va poser en Australie pour le premier Grand Prix 2023. Sa charge à lui, ça va vraiment d'être de motiver ses équipes pour que tout au long de la saison, la Scuderia arrive à faire ce qu'elle n'a pas fait en 2022.
Alors, son arrivée est prévue pour le 9 janvier dans les locaux de Maranello. Je pense que d'ici là, il ne va rien se passer. Et qu'après, non plus. C'est-à-dire, on va attendre vraiment les premiers Grands Prix au fil de la saison et on va voir les premières touches. La méthode un petit peu Vasseur se mettre en place. Il ne s'agit pas de tout révolutionner. Alors, c'est intéressant ce que tu me disais. La voiture, il en hérite. Mais je dirais qu'il va d'abord s'assurer que cette voiture est au meilleur standard du règlement 2022. Je m'explique. En 2022, la seule voiture qui est au poids réglementaire, qui a atteint cette limite réglementaire, alors que toutes les autres voitures sont 10 à 20 kilos au-dessus, c'est l'Alfa Romeo. Ça veut dire que Fred Vasseur est parvenu à exiger de son département technique de fabriquer une voiture juste au poids limite. Et ensuite, dans l'année aussi, il a dit qu'ils avaient un programme de développement, qu'ils avaient suivi, qu'eux, ils seraient dans les clous du règlement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui contient vraiment et qui comprend les données qu'on lui propose pour réaliser quelque chose de performant. Et c'est quelqu'un aussi qui a déjà une vision, je pense, très clair de ce qui se passe chez Ferrari. Souviens-toi, quand il est arrivé chez Sauber, eh bien, il a dit dans la première heure, quand je me suis installé au bureau, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai cassé le contrat du moteur Honda. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de boîte de vitesse. Ça veut dire que depuis des années, il savait que Sauber ne fabriquait pas ses boîtes de vitesse, qu'ils avaient un moteur Ferrari client qui fournissait à la transmission avec. Et là, ce moteur posait problème et lui regardait ça de l'extérieur. Il venait de chez Renault. Et il avait compris ça. Et chez Sauber, ils avaient pris l'option Honda sans boîte de vitesse. C'était délirant, quoi, tu vois. Voilà. Et je dirais que plus que l'expérience chez Sauber, ce qui va lui apporter, c'est peut-être déjà aussi son vécu pendant une saison chez Renault, parce que Renault était un constructeur global qui faisait le châssis, qui faisait le moteur. Et il est rentré vraiment dans tout le détail de cette complexité. Et c'est ce qu'il va retrouver chez Ferrari, châssis plus moteur.
Alors, tu as tout à fait raison de ce point de vue-là. Après, il y a un autre grand chantier pour moi. Le premier grand chantier, c'est vraiment ça. Assurer en fait la continuité évolutive de la Ferrari en 2023 pour permettre à Charles Leclerc et éventuellement à Carlos Sainz, mais on connaît les liens entre Charles Leclerc et Fred Vasseur, pour aller chercher le titre. Il y a un autre point aussi, outre l'aspect technique qu'on vient d'évoquer, on y reviendra peut-être, il y a l'aspect humain. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, et j'en ai parlé à plusieurs reprises avec des personnes qui évoluent dans le paddock, c'est la fébrilité qu'on a vue à plusieurs reprises, notamment lors des arrêts au stand, parce que c'est là que ça se voit le plus, des mécaniciens, en gros de tout le staff, qui intervient sur la voiture au niveau de la Scuderia pendant toute la saison 2022. Et Mattia Binotto l'avait dit lui-même, l'équipe doit finalement réapprendre à gagner. Parce que tous les techniciens qui sont là, tous les mécaniciens, pour parler bêtement, mais c'est des techniciens, qui œuvrent autour de la voiture, ils n'ont pas connu l'époque Jean Todt, ils n'ont pas connu l'époque Michael Schumacher. Donc, ils n'ont pas cette fameuse culture de la gagne qu'on nous a rabâchée pendant des années et des années en football. Aujourd'hui, on l'a, ça paraît évident. Mais dans une équipe de compétition, il y a la façon de gérer, quand on doit faire un arrêt au stand, le dernier geste L'arrêt au stand quand on est en tête et qu'on sait qu'on ne doit pas perdre 4 dixièmes parce que sinon on va se faire undercuter. Ça s'appelle la culture de la gagne et c'est sur ce genre de choses que Fred Vasseur va devoir travailler.
Pour moi, ça c'est un baromètre qui ne ment pas. C'est vraiment les capacités opérationnelles. C'est plus qu'une question de motivation, c'est une question de démarche, d'agressivité. Comment est-ce qu'on aborde la compétition? Et là, il faudra se mettre au niveau de Red Bull. Je te rappelle ce chiffre. En 2012, Red Bull a fait 11 fois sur les 22 Grands Prix le meilleur chrono en termes d'intervention de pit crew pour changer les pneumatiques. Et chez Ferrari, une fois.
Ouais. C'est là-dessus que Fred Vasseur est vraiment une sorte d'expert. Moi, je l'ai pas mal vu à l'époque sur Eurosport. On diffusait le GP2 qui est devenu la Formule 2. La façon dont il gère ses équipes, ces mécaniciens, alors ça n'a plus rien à voir entre sa magnifique équipe qu'il a créée avec Nicolas Todd à RT et aujourd'hui ce qui est peut-être la plus grosse équipe de Formule 1, mais n'empêche que il a ce petit sens d'aller voir les garçons, les filles aussi, de faire partie de son équipe, en fait, d'être un meneur plus que d'être un patron. Et là-dessus, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer pour Fred Vasseur. Et ça va commencer le 9 janvier à 9h01, il y sera.
Alors, le défi aussi, je reviens sur les pit stops, c'est une façon d'aborder la compétition. On avait parlé à Laurent Rossi chez Alpine, qui disait que le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est prendre des risques pour rien, mais chez Red Bull, ils le prennent en permanence, et il y a quand même rarement des couacs, et c'est là-dessus que aussi Ferrari va devoir aller chercher Red Bull, et Fred Vasseur n'a pas l'habitude de ça. Je regardais encore sur les interventions des pit stops, pas une seule fois, le pit crew d'Alfa Romeo n'a fait l'un des trois meilleurs temps, l'une des trois interventions les plus rapides au stand en termes de changement de pneus. Donc ça, il va falloir qu'il shift aussi là-dessus.
Mais ce n'était pas les mêmes ambitions non plus.
Bien sûr, tout à fait. Mais c'est lui qui va devoir maintenant aussi changer de catégorie, on va dire. Et alors, tu évoquais aussi ART. Je dirais que Fred Vasseur, il est très lucide aussi par rapport à ça. Il sait motiver ses gens. Il injecte de la confiance en permanence. Il sait aussi les rabrouer. Les colères qu'il prend sont quand même assez gigantesques. Et je me souviens qu'avec Nicolas Todd, il s'était posé la question dans les plus belles années d'ART, quand il se posait la question, est-ce qu'on va en Formule 1? Ils avaient commencé à étudier tout ça. Ils avaient le moteur, etc. Puis à un moment, Fred Vasseur a dit, on n'y va pas parce qu'on a pas le budget, on va pas essayer d'aller faire les beaux pour rien. Donc ça veut dire qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas taille à se lancer parce qu'ils avaient, je crois, un budget d'à peu près 40 millions d'euros. Et à l'époque, il en fallait 120. Maintenant, 120, c'est réservé au top team. Mais à l'époque, en tous les cas, ça ne convenait pas. Et lui disait, on n'y va pas pour ça. Donc il saura faire, je pense, l'autocritique. Et on aura aussi des propos comme ça où il reconnaîtra des manques, des insuffisances,
des erreurs. Ce qui avait manqué à Mattia Binotto, bien sûr, il y a des grands prix où ça s'était passé complètement de travers pour la Scuderia et où il me donnait l'impression d'être un homme politique, c'est-à-dire ne pas vouloir dire oui, on s'est trompé. Et ça c'est dévastateur, à la fois en termes d'image et auprès de ses hommes aussi, parce que la première des choses pour corriger une erreur, c'est de l'admettre. Quand on est dans le déni, on ne peut pas avancer. Voilà donc pour Fred Vasseur, tu veux ajouter quelque chose?
Un petit pari sur le premier changement dans l'organigramme de Ferrari.
Oh, je veux pas jouer à ça. Honnêtement, je veux pas jouer à ça parce qu'on va donner des noms. On n'a pas évoqué le nom d'Inaki Rueda, le stratégiste.
Ah ben moi, je suis complètement là-dessus. C'est-à-dire que je pense que c'est lui qui va être mis de côté.
J'ai pas voulu répondre,
un moment,
mais j'ai un peu répondu.
Et tu sais quand même que chez Sauber, il y a une dame qui fait un travail merveilleux en tant que stratégiste. C'est Ruth Bonscombe, qui a travaillé, qui a commencé d'ailleurs dans la cellule stratégie de Ferrari, qui a travaillé à l'état d'usine de 2016 à fin 2015. Elle faisait un très bon travail et son rêve, c'était d'aller sur le terrain. Elle a eu un poste chez Haas. Tu sais combien de temps elle est restée? Elle est restée 3 mois parce qu'elle a tout de suite été recrutée par Sauber, où là, elle a fait gagner des courses. Elle a obtenu des résultats importants et elle a une sensibilité, elle a quelque chose en plus. Et alors, elle a vraiment fait des merveilles pour Alfa Romeo qui a arraché quand même la 6e place cette année, il faut le dire très clairement. Et c'est incroyable quand on regarde juste un petit peu ses préceptes. Elle dit, moi, c'est 50% de modélisation et c'est 50% pour expliquer ensuite à l'équipe qu'il faut plutôt aller vers cette solution-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la persuasion, il faut avoir
du tact. La pédagogie.
Elle a tout ça. Et je trouve que moi, je ne serais pas surpris de voir. Ouais, tout à fait.
On va voir ça. Mais ça serait évidemment intéressant. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, il va falloir que Fred Vasseur mette éventuellement aussi des fidèles à lui pour qu'il soit ses yeux et ses oreilles. Parce que vous imaginez bien que la Scuderia Ferrari, c'est immense. Et qu'il faut, qu'il ait des retours fidèles pour savoir ensuite comment manœuvrer. Ça, c'est pour ce qui concerne Ferrari et Fred Vasseur, qui vient donc être nommé team principal et manager général. Évidemment, la place de Fred Vasseur, elle n'est pas restée vacante très très longtemps. Et alors là, j'ai été surpris quand même. On en parle deux minutes là-dessus, Steph. Bah, c'est que c'est Andreas Seidel, qui était donc le team principal de chez McLaren, qui a sauté sur l'occasion. L'Allemand, alors... Je rappelle, Andreas Seidel, qui avait été auparavant team principal chez Porsche en endurance à partir de 2014. Victoire aux 24 heures du Mans 2015, 2016, 2017. Ensuite, Porsche s'est retiré et il a été recruté par McLaren en 2019. Et il va donc prendre la direction de chez Sauber, donc Sauber Alfa Romeo, qui deviendra Audi. Dans quelques années, en 2026, puisque Audi va racheter petit à petit l'équipe de Formule 1.
Ce qui n'est pas officiel, mais c'est dans les tuyaux.
Voilà. Et donc, en gros...
C'est considéré comme acquis.
Seidel revient dans le giron Volkswagen sous l'entité Audi, à qui il avait fait bien des misères il y a quelques années. C'est très, très intéressant, alors, ça, pour l'arrivée de Audi. Par contre, c'est un vrai camouflet pour Zak Brown. Le patron de McLaren.
Oui, tout à fait, parce qu'il a nommé Andreas Seidel team principal. On verra ce qu'il en est. Mais Andreas Seidel l'avait prévenu cet été qu'en fait, il quitterait McLaren fin 2025 pour rejoindre en fait l'entité Sauber Audi. Donc, Zak Brown en avait pris acte. Et puis là, en fait, quand s'est dessiné ce shift entre Binotto et Vasseur, eh bien, il y a le board de Sauber qui a appelé directement Zak Brown pour dire bon ben,
on devance
est-ce que qu'est-ce que ça vous dirait, est-ce que ça vous dirait de nous laisser Andreas Seidel un peu plus tôt. Et là, Zak Brown a dit, écoutez, si ça convient à tout le monde, je fais ça comme ça, parce qu'il faut que chacun soit chez lui, en fait, je dirais, dans sa vraie écurie, et non pas à faire un petit peu, voilà, regarder tout ce qui se passe chez McLaren pendant 2 ans, même 3, 2023, 2024, 2025, et puis arriver avec tous les enseignements appris chez McLaren pour les imposer chez Audi. Voilà, tout à fait. Donc, je pense qu'il a eu peur de ça. Il s'est dit, allez, on y va tout de suite, ça sera réglé. Et là, oui, c'est un vrai camouflet pour McLaren, c'est absolument évident, qui pour moi maintenant a une grosse question de gouvernance sur la direction d'équipe. Qu'est-ce que fera Andrea Stella? C'est un ancien ingénieur de course de chez Ferrari. Donc, Zak Brown a dit que c'était le choix évident. Bon, on verra. Et puis, après, ils ont aussi un problème de direction technique. Je dirais, c'est James Key qui fait la voiture, mais on sent qu'il n'arrive pas à franchir ce dernier palier. Et là, ils sont un petit peu à la croisée des chemins, et c'est sûrement pas une bonne nouvelle pour Zak Brown.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire après la nomination de Fred Vasseur à la tête de la Scuderia Ferrari. Et on se propose régulièrement, s'il y a comme ça un
coup de tonnerre,
une breaking news, un coup de tonnerre, eh bien d'intervenir. Et donc, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles et puis surtout de vous abonner. Comme ça, quand on fait un numéro spécial, eh bien ça arrive directement sur votre smartphone ou sur votre tablette. Je crois qu'on a tout dit sur cette histoire, Stéphane.
Jusqu'à la prochaine fois.
Exactement. Alors, soyez bien fidèles et soyez attentifs. Sinon, évidemment, on se retrouvera pour les essais du début de saison. Mais on va encore revenir quand même. On a besoin de se parler entre nous.
Tout à fait.
Ah oui, alors on a un petit mot.
Un petit bonus track, ah voilà, oui, qui vient de tomber.
Un petit bonus track, bien joué.
Ce qui était prévu de toute façon.
On parle de breaking news, voilà. Allons-y.
Mick Schumacher quitte Ferrari officiellement et rejoint Mercedes en tant que pilote de réserve. On verra si c'est un vrai rebond pour lui ou si c'est une façon d'essayer de passer l'année 2023 pour retrouver un volant en compétition l'année suivante, peut-être dans une écurie motorisée par Mercedes, on verra. Mais c'est en tous les cas Mercedes qui reprend la connexion avec Schumacher.
Avec le nom Schumacher.
Après avoir mis le pied à l'étrier à son père Michael Schumacher au début des années 90 en sport proto, et puis l'avoir accueilli dans l'écurie pendant 3 saisons. Bon, ce qui n'a pas très très bien fonctionné de 2010 à 2012, mais en tous les cas, je pense que ça va créer un intérêt. Et puis, Mick va certainement beaucoup apprendre, on verra ce que ça donne.
Ouais, exactement, c'est en tout cas une bonne nouvelle. Pour, je pense, le monde de la Formule 1, de voir si on peut laisser un petit peu de temps à Mick Schumacher, qui était à court de temps, clairement, pour faire ses armes en Formule 1. Cette fois, on va mettre fin à cette parenthèse dans l'hiver de la Formule 1. Mais évidemment, Stéphane, on garde nos bonnes vieilles habitudes.
Et on coupe le contact.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.